Des mots pour le dire, Michel Théron, Redouanès Banti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau de FM+, que vous soyez sur l'agglomération montpelliéraine, sur le 91 ou bien nîmoise sur le 103.1. Des mots pour le dire, une émission qui vous est proposée avec la complicité et surtout le soutien de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane.
Donc des mots pour le dire, qui émission qui s'appuie sur le livre que vous avez écrit Michel, Théologie buissonnière, ce livre qui n'est pas un ouvrage de théologie institutionnelle, qui ne se réclame de l'autorité d'aucune église, et on l'a vu de jeudi en jeudi et de mot en mot, la liberté d'esprit et de ton que prend Michel, non pas pour provoquer tel ou tel dans ses convictions, mais au contraire susciter une réflexion, un débat, une joute théologique, philosophique, et je crois que c'est ainsi qu'on a essayé de concevoir pendant cette année, puisqu'on en arrive à la fin, c'est notre dernière émission, qu'on a voulu concevoir cette émission. Ce livre est l'œuvre d'un esprit libre, comme vous l'avez pu le constater. En tant que dictionnaire, il peut se feuilleter au hasard d'entrée en entrée. Nous, on a fait le choix de passer par un ordre alphabétique pour ne pas donner le sentiment qu'il y a des mots qui étaient plus importants que d'autres, et on les a pris au fur et à mesure, ce qui nous a amené aujourd'hui au dernier mot avant les vacances, un mot assez important, Michel, puisqu'il est aussi un des éléments fondateurs des religions ou de telle ou telle religion, en ce qui concerne le christianisme, les sacrements ou le sacrement.
Voilà, le mot sacrement. Alors, nous venons d'entendre un chant grégorien qui s'appelle le Tantum Ergo. Hein. C'est un chant obligatoire en Église catholique lors de la bénédiction du Saint-Sacrement. Alors, ce qu'il me semble intéressant à noter, c'est que ce chant présente le nouveau sacrement catholique comme succédant à un ancien usage. Ainsi, on peut penser que l'Eucharistie chrétienne succède simplement aux anciens mystères païens où, vous le savez, un Dieu meurt et ressuscite pour le salut de ses fidèles. Voici le début du chant. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum, nuo quedat ritui. C'est-à-dire, ce sacrement si grand, voilà, tantum ergo sacramentum, adorons-le le front courbé, et que le rite antique cède le pas à la nouvelle liturgie. Alors, on va voir que le mot latin sacramentum, d'où vient le mot français sacrement, a plusieurs sens. D'abord un sens ancien, un sens païen, et ensuite un sens moderne, un sens chrétien. Alors, comme le dit Alain, le philosophe Alain, dans Les Dieux, la religion est faite de strates superposées, non point d'étapes, dont la dernière annulerait la première, par exemple, mais d'étage. L'exemple que prend Alain, c'est la fête de Noël, où la base est manifestement païenne, c'est la fête du solstice d'hiver, où le soleil va recommencer à vivre, le sol invictus des anciens païens. Sol invictus, ça veut dire le soleil invaincu. Et ensuite, sur cette strate païenne, il y a une superposition chrétienne, d'où vous voyez un empilement de sens multiples, une succession de sédimentations. Alors, j'en viens maintenant au mot latin sacramentum. À l'origine, il signifie un objet que l'on laisse en dépôt ou en gage lors d'un litige au tribunal, à charge pour la partie qui va perdre le procès de laisser cet objet qui est, comme on dit, consacré. Sacramentum, consacré. Ou bien alors, le mot sacramentum signifie un serment, spécialement un serment militaire, et d'ailleurs, vous voyez, Redouane, le mot serment en français vient de sacramentum aussi, par formation populaire. Gaffio, le dictionnaire latin de référence, à propos du mot latin, de ce mot sacramentum, dit que le sens moderne du mot sacrement ne se trouve qu'à l'époque chrétienne. Alors le mot sacrement, bien entendu, est de la racine du latin sacer, qui veut dire sacré, mis à part. Et sacré s'oppose à profane. Alors, le petit Robert, le dictionnaire de référence aussi, de beaucoup, dit que c'est Jésus qui a institué le sacrement, et voici comment le petit Robert définit le mot sacrement. C'est un signe sacré, c'est un rite institué par Jésus-Christ, dit Robert, pour produire ou augmenter la grâce dans les âmes. Et ce même dictionnaire Robert cite les sept sacrements reconnus par l'Église. Alors, je pense qu'il veut dire l'Église catholique, vous me direz, Redouane.
C'est toujours le problème, effectivement, oui, oui, dans la littérature française, c'est la référence à l'Église.
Oui.
On ne précise jamais.
De quelle Église?
Et justement, et on pourrait dire à ce moment-là que le petit Robert se trompe et
voilà.
Complètement sur la définition du sacrement,
oui,
et notamment
oui, oui.
Dans les sept sacrements qui, en fait, ne sont pas du tout évangéliques en soi, mais qui font partie
tout
du...
à fait.
Religieux.
Voilà, du religieux majoritaire, disons, en France. Alors, voici ces sept sacrements. 1. Baptême. 2. Confirmation. 3. Eucharistie. 4. Extrême onction. C'est le sacrement des mourants. Ensuite, nous avons mariage. Ensuite, nous avons ordre, c'est-à-dire la consécration sacerdotale, qui ne vaut que pour les catholiques, bien sûr, hein, lorsque c'est l'ordination du prêtre. Et enfin, en septième lieu, nous avons la pénitence. Et alors, le petit Robert mentionne aussi le fameux Saint-Sacrement, qui est le sacrement de l'autel, c'est-à-dire l'Eucharistie. Par métonymie, le mot Saint-Sacrement, l'expression Saint-Sacrement, désigne aussi l'ostensoire. Alors, vous voyez, Redouane, je me demande, et vous venez déjà de répondre par anticipation, s'il faut s'incliner devant ce dictionnaire, si réputé soit-il, faut-il s'incliner devant le petit Robert comme devant le Saint-Sacrement? C'est une expression.
C'est tout le problème aujourd'hui, d'ailleurs pour la langue française et même pour les dictionnaires qui traitent de ces questions-là, car le sacrement n'est pas seulement quelque chose de propre au christianisme. Et il faudrait que nos dictionnaires apprennent.
Absolument.
Que nous ne sommes plus dans l'espace géographique du 19e siècle où il y avait notre espace géographique européen, français, était particulièrement chrétien. Aujourd'hui,
oui.
Nous sommes dans des strates. Plutôt que des étages, des strates composées de différentes sensibilités religieuses. Et le sacrement n'a pas le même sens pour un musulman, un bouddhiste,
voilà.
un catholique, un protestant ou un orthodoxe.
Voilà. Alors je pense effectivement qu'il ne faut pas s'incliner devant Robert comme devant le Saint-Sacrement. Comme bien d'autres dictionnaires, Robert est souvent prisonnier de la coutume, de l'opinion, de la doxa. Doxa, c'est un mot grec qui veut dire l'opinion commune, hein. Alors, par exemple, là c'est une question que je me suis souvent posée, que je continue de me poser. Robert dit que Jésus a instauré le sacrement de l'Eucharistie. Je me demande si Jésus vraiment a pu instituer ce sacrement de l'Eucharistie parmi d'autres. Hein. L'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence. Peut-être les paroles eucharistiques que l'on introduit dans la bouche de Jésus ont été introduites a posteriori dans le texte évangélique canonique pour précisément cautionner, justifier l'institution de ce sacrement. Lorsque Jérôme, dans sa Vulgate, c'est-à-dire dans sa traduction latine de la Bible, traduit le mot grec « mysterion » par « sacramentum », alors Jérôme peut ouvrir la voie du sacrement tel que nous le connaissons, et peut-être que là, le sacrement, c'est l'instrumentalisation du mystère, du mysterion, entre les mains du clergé. Peut-être s'agit-il là d'une manipulation ecclésiale. Bref, on passerait alors du mystère au ministère. Hein. Alors, revenons toujours au mot sacrement, sacramentum. Pline, c'est le début du IIe siècle, dit au sujet des chrétiens de la Bithynie qu'ils se liaient par un sacramentum, c'est-à-dire dans le sens ici de serment. Il s'agit d'un engagement à ne commettre aucun crime. Et c'est Tertullien, qui se situe à la fin du second siècle, du deuxième siècle et au début du troisième, qui donne les premières indications de l'adoption de ce mot comme un terme technique désignant le baptême, l'Eucharistie et d'autres rites de l'Église chrétienne. Cependant, Tertullien n'attribue encore aucune valeur sacramentelle, au sens moderne du mot, à ses usages. Lorsqu'il appelle le baptême un sacrement, il fait seulement le rapprochement avec le serment d'engagement du soldat. Et ensuite, saint Augustin, définissant le sacrement comme le signe visible d'une grâce invisible, va limiter son application. Mais cela n'empêchera pas Hugo de Saint-Victor, au XIIe siècle, d'appliquer le mot « sacramentum » à tout acte rituel et d'en énumérer, alors figurez-vous, 30, il en trouve 30. Hein. Il y a donc, au fil du temps, comme une inflation potentielle des sacrements qui est corrélée, il me semble, à la méticulosité inquisitrice, peut-être aussi à l'oisiveté hein, des ecclésiastiques. Ils n'ont rien d'autre chose à faire que d'énumérer les sacrements. Alors, les ecclésiastiques, les directeurs de conscience vont développer, évidemment, toute leur activité là-dessus. Alors, la réduction aux 7 sacrements que je viens de citer, que reprend Robert, ne date que du fameux Concile de Trente. Alors, le Concile de Trente, c'est la restauration catholique contre la réforme. Hein. Mais réduit en nombre à 7, les sacrements n'en ont eu que plus d'importance en milieu catholique. Alors, le sacrement pour les catholiques, du moins, c'est un acte magique. Il repose sur le crédit qu'on lui donne, sur la confiance ou bien la fiducia. Fiducia, c'est un mot latin qui veut dire confiance. Et ainsi, la fiducia va conférer à celui qui administre le sacrement une importance proportionnelle à celle qu'il a dans l'esprit de celui qui le reçoit. Alors, on sait par ailleurs, c'est pas à vous que je l'apprendrai, Edouane, que Jésus a récusé toute magie. Voyez l'épisode de la tentation au désert dans les évangiles synoptiques. Face au diable qui propose à Jésus la magie, « Élance-toi et envole-toi » par exemple, hein, Jésus retourne contre le diable les paroles mêmes de la Bible que le diable lui adresse, par le procédé bien connu chez les rabbins du pile-poule, c'est-à-dire de la controverse rabbinique. Le diable dit « il est dit que si tu te jettes, les anges vont te retenir pour éviter que tu ne tombes à terre. » Mais Jésus dit « il est dit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, je crois. Hein. » Je pense qu'il est peu probable que Jésus est approuvé ses conduites magiques, conjuratrices et propitiatoires, ses conduites de nature idolâtre, qui sont très souvent infantilisantes et aliénantes, et qui sont impliquées par le sacrement, au moins tel qu'on l'entend, en milieu catholique. Le sacrement est donc une notion tardive, me semble-t-il, non pas néo-testamentaire, mais le fruit du développement de la pensée théologique postérieure au Nouveau Testament. C'est certes une notion chrétienne, mais alors je vais risquer une formule qui choquera peut-être certains auditeurs. On ne le sait pas ou on ne le souligne pas assez, Jésus n'était pas chrétien, de ce point de vue.
Mais cependant, je ferai juste une remarque. Je dirais pas seulement post-néo-testamentaire, déjà né au début de l'Église primitive de Jérusalem, les questionnements, justement, sur ce qui fait l'identité du disciple du Christ par rapport à sa judaïté. Et là va démarrer toute une réflexion théologique qui, effectivement, va pousser Paul, notamment, le grand théologien du Nouveau Testament, à délimiter, effectivement, ce qui est sacré, ce qui n'est pas sacré. Ça démarre sur la question être circoncis, ne pas être circoncis, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Donc on va petit à petit délimiter, effectivement, le sexe, le cadre de la profession chrétienne, dans son expression, pour se distinguer ou se distancier
tout à fait
du judaïsme.
Tout à fait, tout à fait. Alors nous allons entendre une version donc moderne du sacrement de l'Eucharistie, c'est le fameux Haue Verum.
Vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, avec Michel Théron, des mots pour le dire. Alors Michel, Mozart, Ave Verum,
voilà.
C'est une musique sublime, mais qui a aussi, au-delà de la musique, des paroles très précises.
Voilà, alors il faut bien voir que cet Haue Verum de Mozart correspond tout à fait au programme catholique. C'est curieux, parce que Mozart, nous dit-on, était franc-maçon. La Flûte enchantée est un opéra maçonnique. Là, peut-être parce qu'on lui avait fait une commande, il a fait une musique sur un texte catholique, tout imprégné d'un programme théologique et aussi de polémique. En effet, que dit le texte ?« Haue verum corpus natum », c'est-à-dire « Salut, vrai corps du Christ, ex Maria Virgine, toi qui es né de la Vierge Marie, vere passum immolatum, toi qui as vraiment souffert et qui a été vraiment immolé, in cruce pro homine, sur la croix pour le genre humain. Donc, ce chant est à la fois dirigé contre les anciens docètes, qui pensaient que Jésus n'avait eu une apparence que fantomatique, du grec dokein, semblait paraître, hein, donc a verum corpus, vrai corps, hein. Et puis aussi, il est dirigé, ce chant, contre les protestants modernes, dans la mesure où il concerne bien ce qu'il nous faut voir et croire dans l'Eucharistie, c'est-à-dire que dans l'hostie, il y a vraiment, vraiment le corps du Christ. Donc, comme bien d'autres textes liturgiques, ce texte est un vrai programme dogmatique. Les docètes, par exemple, disaient que Jésus n'avait pas été mis à mort, mais que c'était un autre qui avait été crucifié à sa place. Par exemple, Simon de Cyrène, qui avait aidé Jésus à porter la croix. Et dans le Coran, d'ailleurs, il y a une trace de ce docétisme. Hein. Jésus n'a pas été effectivement mis à mort, c'est quelqu'un qui l'a remplacé, qui a été immolé à sa place. Donc là, Weverum dit que le Christ lui-même a été sacrifié. Et quant à la présence effective de son corps, Verum corpus, vrai corps, dans le sacrement eucharistique, eh bien, malgré tout ce que disent les réformés, cette présence ne fait point de doute pour les catholiques, ce qu'on appelle la présence réelle. Alors, bien entendu, je pense que celui qui écoute aujourd'hui un Ave Verum tel que celui de Mozart, qui est très recueilli et très beau, dont vous avez dit sublime, c'est tout à fait vrai, Redouane, eh bien, celui-là, il est absorbé par la beauté du chant, et il est bien loin de penser aux paroles et à tout ce qu'on peut y trouver, en y réfléchissant, de problématiques ou de contestables. Alors, il me semble que la Réforme, quand elle a contesté les sacrements, a opéré un salutaire retour à l'origine. Donc, je pense, vous me corrigerez, Redouane, si je me trompe, hein, que la Réforme ne retient que deux sacrements, le baptême et l'Eucharistie, c'est ce qu'on appelle la Sainte-Seine.
La
Sainte-Seine, hein. Et surtout, elle en souligne la valeur qui n'est pas magique, mais qui est seulement symbolique. Sur l'Eucharistie, les luthériens ont remplacé ce qu'on appelle en milieu catholique la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement réel sur l'autel après que l'on ait prononcé les paroles de consécration, du pain et du vin en corps et sang de Jésus. Eh bien, cette transsubstantiation catholique, pour les luthériens, doit être remplacé par la consubstantiation, c'est-à-dire l'affirmation de la présence simultanée sur l'autel du pain et du vin et du corps et du sang de Jésus. Quant aux réformés calvinistes, hein, eux, ils ont été plus loin, ils ont été plus radicaux, et ils ont vu là un symbole. Alors, bien sûr, je ne prends pas symbole au sens péjoratif. Hein.
Non, mais je oui. C'est pas sur la terminologie symbolique que je réagis, mais sur radicaux. Je ne pense pas que les réformés calvinistes aient été radical dans son approche, mais que Calvin a essayé de recentrer exactement ce qu'a été la Sainte Seine, l'Eucharistie, et que nous rappelle, non pas Jésus, mais que nous rappelle Paul lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit attention, voilà, c'est le sens, la symbolique. Oui. Parce que ce qui se pratiquait était en dehors, au-delà de l'importance du signe que oui. donne le Christ à ce partage du pain et du vin. Oui. Et c'est une commémoration, c'est ce souvenir. Oui. Donc je ne dirais pas qu'ils aient été radicalisme, il n'y a pas de radicalisme. C'est au oui. contraire revenir au strict minimum de ce qu'on peut dire de ce qu'est
oui.
la
oui, oui. Le mot commémoration dans le grec du Nouveau Testament, c'est anamnésis, c'est une anamnèse. Faites ceci en mémoire de moi. Dans le texte de Luc, je pense que c'est eisten emen anamnésin, en commémoration. Effectivement, commémoration, vous avez raison de citer Paul. Hein. Maintenant, alors là, je vais donner un coup de griffe, Edouard, mais tout le monde n'est pas forcé de partager mon point de vue. Je me demande si les paroles qu'on met dans la bouche de Jésus, dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie, dans l'évangile de Luc par exemple, ne sont pas précisément issues d'une influence paulinienne. Hein. Est-ce que Jésus lui-même a pu dire « Prenez et buvez, car ceci est mon sang hein. » Eh bien, pour un juif, c'est inadmissible. Pour un juif, on ne peut pas consommer du sang. Hein. Là, les lois de la Bible juive sont absolument intangibles. Hein. Alors, c'est Paul qui a, via Luc, qui a l'influence de Paul sur Luc est évidente, hein, qui a instauré justement ce discours de prononcé par Jésus, à mon avis, que l'on met dans la bouche de Jésus pour justifier le sacrement de l'Eucharistie. Bultmann, le fameux grand théologien qui a voulu démythologiser le christianisme, a dit qu'il s'agissait là d'une légende cultuelle, c'est-à-dire justifier le culte par des paroles prêtées à Jésus. Vous voyez ? Donc, tout le monde n'est pas de mon avis, mais...
Ce qui est évident, alors là on touche, effectivement, c'est le mot même qu'on aborde aujourd'hui, sacrement, quand on touche au sacrement, on touche à des fondements spirituels, religieux, et là il y a différentes sensibilités. C'est vrai qu'au sein des églises de la Réforme, il y a toutes les couleurs.
Tout à fait.
De la plus rigoriste à la plus libérale. Le catholicisme a fait un choix très clair, net. C'est une transsubstantiation. Oui. C'est véritablement une répétition du sacrifice.
Oui.
Et là aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait de rappeler la mort de Jésus, c'est bien ce Jésus, et donc on célèbre aussi sa résurrection.
Oui.
Donc on est dans ce temps, non plus de la résurrection, mais dans son temps de vide.
Oui.
Jusqu'à ce qu'ils reviennent.
Oui, oui.
Donc voilà, il y a des choses fondamentales.
C'est ce que dit Paul, d'ailleurs.
Voilà, c'est ce que
vous venez de citer Paul. Nous annonçons la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Hein, sur la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à la nouvelle parousie. Donc effectivement, est-ce que Paul c'est Jésus, j'en suis pas sûr du tout. Hein.
Non.
Il y a chez Paul une influence des mystères païens, par exemple dans le mitraïsme, le culte de Mitra, eh bien on boit le sang du taureau que l'on vient de tuer, vous voyez, c'est un processus de salut, donc c'est du paganisme ça. Et peut-être que Paul, via Paul, il était tout à fait...
La relation au sang dans le milieu du Moyen-Orient,
oui,
est quelque chose de très présente, hein, déjà, lorsqu'on regarde dans la Genèse,
oui,
la naissance, c'est-à-dire l'explication de l'origine de l'homme,
oui,
c'est le sang, c'est grâce au sang d'un dieu qui a été tué, est mélangé à de la boue, et
oui,
c'est de ce sang-là, et de ce mélange de ce sang et de cette boue qu'est né l'homme. Donc, le signe que mettent le peuple juif pour la sortie, pour que la mort passe,
que c'est que les sept plaies,
dans la Pâque juive.
Oui, tout à
donc, il y a toujours cette relation assez particulière, et c'est vrai que là, il y a une dimension, et en même temps, une rupture.
Oui.
Il y a une rupture qui se veut dans... Alors, est-ce que c'est Jésus qui voulait cette rupture ou pas? Jésus dit que je ne suis pas là pour rompre avec,
oui,
le passé, mais pour accomplir le passé. Donc,
oui,
mais en même temps, c'est vrai que ses disciples ont voulu aussi se distinguer
oui,
des autres, et c'est vrai que la distinction passe aussi dans la provocation, souvent.
Absolument. Je me demande quand même si cette Eucharistie chrétienne n'est pas, le recouvrement d'un usage par un autre. Hein. On aurait pu en rester...
À ce moment-là, on en reviendrait à ce que vous disiez tout à l'heure concernant Alain, qui disait, en fait, c'est par étage.
Tout à fait.
Donc là, effectivement, oui, on relie
voilà,
les paroles ou les faits dits de Jésus, d'un point de vue très précis, en sublimant le passé ou les rites passés.
Tout à fait. On aurait pu en rester justement au dernier repas, hein, que les unitariens, par exemple, ne célèbrent pas du tout l'Eucharistie, hein, mais le dernier repas de Jésus, un repas des agapes, ce qu'on appelle des agapes, sans qu'il y ait besoin d'aller consommer le corps et le sang du Christ. On aurait pu aussi en rester au lavement des pieds, par exemple, dans l'évangile de Jean, parce que l'institution de l'Eucharistie ne figure pas du tout dans l'évangile de Jean, donc rien de plus beau que ce lavement des pieds, qu'en fait, je crois, le jeudi saint, hein, où il s'agit de se mettre au service, au service d'un plus faible que soi, en quelque sorte, s'abaisser, hein. Voilà, lavement des pieds, magnifique geste symbolique. Agape, simplement, repas partagé en commun. Tout le monde peut être d'accord avec cela. Pourquoi avoir superposé là-dessus le corps et le sang du Christ? Je ne sais pas. Mais enfin, je suis d'accord avec vous, Redouane, que les choses sont complexes, hein, et que, après tout, là, on touche aux bases, aux fondements même de ce qui institue les gens, hein, depuis le temps de l'enfance, depuis leur éducation, et il faut y regarder à deux fois avant déconstruire tout cela. Mais enfin, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Redouane, pour dire que pour un protestant, hein, l'acte même du sacrement n'est rien s'il n'y a pas des dispositions intérieures qui sont traduites par ce sacrement. Prenons le rite, par exemple, le rite de l'Eucharistie, du baptême. Je vais parler plutôt du baptême, puisque je laisse de côté ce point névralgique de l'Eucharistie. Il me semble que le sacrement de baptême, qui est effectivement le seul sacrement, si on veut en chercher un, qui est présent dans l'Écriture, n'a pas de sens en tant que tel s'il ne manifeste la foi de celui qui ressent le sacrement. L'acte n'est rien, ou le rite n'est rien, sans ce que veut dire le sacrement. Par exemple, dans Marc 16:16, nous lisons « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, ce qui est important, et je pense que les protestants ou les réformés seraient d'accord, de prendre Marc au pied de la lettre, c'est pas seulement le baptême, c'est l'acte de foi que manifeste le baptême. Il me semble. Il faut donc qu'il y ait conversion, changement de pensée, ou ce qu'on appelle la métanoïa, hein, dans le grec néo-testamentaire, ou si l'on veut repentir aussi, avant le baptême. Et le baptême n'est que la conséquence, le signe ou le symbole du changement de vie que l'on a opéré avant. Par exemple, dans les actes, on lit acte 2, 38, « Maintenant, repentez-vous, métanoésate, ou métanoïa, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, on comprend pourquoi beaucoup de protestants, à partir de là, sont contre le baptême des petits-enfants, ce qu'on appelle le pédobaptisme, hein, le baptême des petits-enfants. Car l'enfant est incapable de se repentir, ou même de parler, puisque « enfant » vient du latin « infant », et « infant » veut dire « qui ne parle pas ». Entendons-nous, l'enfant gazouille, bien sûr, mais il n'a pas de langage réfléchi avant l'âge, mettons, de raison, c'est-à-dire 7 ans, hein, bon. Alors, dans certains milieux, on baptise seulement des adultes. Et si l'on a été baptisé étant enfant, eh bien, quand on est adulte, on doit se rebaptiser. C'est ce qu'on appelle l'anabaptisme. Anna signifie de nouveau, hein. Mais alors, moi, dans l'église dont je viens, hein, dont je me suis éloigné, mais dont je viens, l'église catholique, eh bien, on oublie volontiers le préalable indiqué par Marc, c'est-à-dire la foi. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et on va imposer le rite. Et ainsi, on baptise les petits-enfants, et même parfois à la sauvette d'un signe de croix sur le front, s'il arrive que l'enfant meure aussitôt qu'il est né, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en milieu protestant.
Alors, tout dépend. Dans le protestantisme, il y a les deux pratiques.
Oui. Hein,
il y a les deux pratiques. Moi, j'appartiens à l'Église réformée de France. Et au sein de l'Église réformée de France, la discipline, c'est-à-dire le cadre qui instruit le vivre ensemble dans cette Église, il y a une clause de conscience qui est donnée à certains pasteurs pour ne pas baptiser des petits-enfants.
Des petits-enfants. Oui. Donc,
voilà. Mmh. Mais c'est le conseil presbytéral à ce moment-là qui procède au baptême. Mais le pasteur ne peut pas s'opposer au baptême.
Oui.
Maintenant, la question qui se pose derrière, c'est de savoir qu'est-ce qui précède, l'amour que j'ai pour Dieu ou l'amour de Dieu pour moi.
Ah oui, bien sûr.
Donc la question, et c'est là, le baptême n'est pas toujours seulement une réponse de la créature vers son créateur, mais ça peut être aussi le signe que le créateur donne à sa créature. Et la confirmation, c'est ce répond.
Voilà. Alors, ce qu'on appelle...
C'est pour ça que souvent, maintenant, dans les églises de l'Église réformée de France, on incite ou on pousse plus les parents. C'est ce que nous avons fait pour nos propres enfants avec mon épouse. C'est d'abord une présentation à la communauté, c'est-à-dire d'abord se réjouir de cette naissance et de cette joie qui nous est donnée, et cette joie est à partager avec la communauté, on les présente à la communauté, oui. Et l'enfant demande son baptême plus tard. Ça ne veut pas dire que c'est un baptême au rabais, mais c'est une manière de présenter au sein de cette communauté, de réfléchir, c'est-à-dire à la fois présenter, c'est le présenter à l'amour de Dieu,
oui.
Et que le baptême, c'est lui qui le demandera. Et là aussi, l'Église réformée de France a eu des positionnements qui ont évolué, changé, qui ne va pas sans poser problème avec l'Église catholique, puisque on n'a plus besoin d'être baptisé pour être membre de l'Église réformée de France, ou pour participer à la Sainte Cène, à l'Eucharistie.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en milieu catholique, je ne sais pas s'il en est chez les protestants, il y a la confirmation, qui est un sacrement aussi, hein, qui est le renouvellement des promesses du baptême. Au baptême, la promesse n'a été que déléguée, puisqu'elle est faite par le parrain et la marraine, qui se portent garant, justement, de la foi de l'enfant. Cependant, la confirmation, elle se fait pas individuellement, on confirme en quelque sorte par fournée, hein, on confirme des groupes. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire l'économie d'un cheminement plus individualisé, plus personnel, plus adulte, plus mature? Je n'en suis pas sûr. De toute façon, la confirmation, c'est un peu comme la première communion, ou la communion solennelle, si vous voulez. C'est un théâtre, hein, qui est socialement institué. Je préférerais qu'il y ait plus de réflexion, plus de motivation, parce qu'à mon avis, le geste, le rite n'est rien sans le sens, hein, sans le sens. Mais enfin, l'Église, au moins catholique, tient à ses rites envers et contre tout, parce que les rites que l'on voit, que l'on entend, hein, ce théâtre social, finalement, en impose, une fois qu'on a intégré l'habitude de ces rites. Et il y a derrière cela, de la part du peuple, je répète que je parle simplement pour les catholiques, beaucoup de peur et de crédulité. Et de la part de ces bergers, des ministres en quelque sorte qui vont diriger le peuple, beaucoup d'entêtement quand ce n'est pas d'hypocrisie. Alors je vais parler maintenant des rites, hein, des rites. Vous savez qu'au XVIIe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse querelle des rites. Est-ce qu'on pouvait dire la messe sans pain et sans vin dans des pays qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, par exemple en Asie, hein, où il n'y a ni pain ni vin. Bon, il y a du riz, peut-être de l'alcool de riz, etc. Hein. Alors l'Église, figurez-vous, l'Église romaine, s'est toujours refusée à ce qu'on dise la messe sans pain et sans vin, malgré les demandes des missionnaires chrétiens en Chine et en Inde. Donc le problème de fond reste encore posé, hein, malgré l'apparition du concept d'inculturation, c'est-à-dire d'adaptation des rites aux usages locaux, ce problème demeure. Et je crois que finalement la clé de tout cela, c'est celle de l'institution qui veut diriger le troupeau, comme on va l'entendre justement dans la chanson qui vient, qui est de Béranger, chansonnier du XIXe siècle, qui dit bien que Dieu n'est pas responsable de tout ce qu'on lui fait dire, parce que la plupart du temps on instrumentalise Dieu. Et qui est-ce qui instrumentalise Dieu? C'est bien sûr le clergé, les ministres de l'Église.
Le bon Dieu s'éveillant fut pour nous assez bienveillant. Il mit le nez à la fenêtre, leur planète a péri peut-être. Dieu dit et l'aperçoit bien loin, qui tourne dans un petit coin. Si je conçois comment on s'y comporte, je veux bien, dit-il, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Blancs ou noirs, gelés ou rôtis, mortels que j'ai fait si petit, dit le bon Dieu d'un air paterne, on prétend que je vous gouverne, mais vous devez voir, Dieu merci, que j'ai des ministres aussi. Si je n'en mets deux ou trois à la porte. Je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Pour vivre en paix, vous ai-je en vain donné des filles et du vin. À ma barbe quoi des pygmées, m'appelant le dieu des armées, ose-t en invoquant mon nom. Vous tirez des coups de canon. Si j'ai jamais conduit une cohorte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Que font ces nains si bien parés sur des trônes à clous dorés, le front huilé, l'humeur altière, ces chefs de votre fourmilière disent que j'ai béni leurs droits et que par ma grâce ils sont rois. Si c'est par moi qu'ils règnent de la sorte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Enfant, ne m'en veuillez donc plus, les bons cœurs seront mes élus. Sans que pour cela je vous noie, faites l'amour, vivez en joie, narguez vos grands et vos cafards. Adieu, car je crains les mouchards. À ces gens-là, si j'ouvre un jour ma porte, je veux mes enfants, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte.
Vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, avec l'émission Des mots pour le dire, avec le mot de, du jour, sacrement, avec Michel Théron. Donc on aborde la troisième et dernière partie de notre émission, ouverte par cette chanson, Le bon Dieu, qui, ma foi, si on regarde de plus près, c'est une sacrée joute contre le clergé en général.
Absolument. Il s'agit d'un poème de Béranger, poète chansonnier du 19e siècle, et il est chanté par Germaine Montero. Alors, on y voit que Dieu n'est pas responsable de tout ce qu'on lui fait dire. Les rois, par la grâce de Dieu, par exemple, Dieu dit que je veux bien que le diable m'emporte si j'ai instauré cela. Et relativement au sacrement, on voit que c'est un levier de puissance, de domination entre les mains de ceux qui l'administrent. N'oubliez pas que Louis XIV, par exemple, tremble, le grand roi, hein, le roi du monde à l'époque, il tremblait devant son confesseur. Hein. Lui donnerait-il l'absolution, etc. C'est impressionnant. Hein. Alors, l'anticléricalisme qu'on vient d'entendre dans cette chanson était très répandu. Bon, au XIXe siècle, il est héritier des Lumières du XVIIIe. Le chansonnier Béranger fait preuve de cet anticléricalisme, mais déjà Hugo, hein, mais aussi Hugo, à la même époque, dit, quelque part, « Dieu est présent dans une église, mais il en sort dès qu'un prêtre y entre », vous voyez. Bon, alors, à cet égard, il est instructif de lire, par rapport au sacrement, les instructions vaticanes pour la bonne tenue de la messe. Alors, je les prends d'un livre qui est paru à l'imprimerie du Vatican en 1965 et qui s'appelle « Ordo Missae », c'est-à-dire « L'ordre de la messe »,« Ritus Servandus in Celebratione Missae », le rite qu'il faut observer dans la célébration de la messe, « Et de defectibus in Celebratione Missae occurrentibus », et alors les catastrophes, hein, les difficultés ou bien les catastrophes qui peuvent survenir dans la célébration de la messe. Alors, qu'est-ce qu'on y lit? On y lit que si le vin utilisé pour le sacrement de l'Eucharistie est aigri ou est piqué, ou bien si le pain n'est pas de froment, alors le sacrement, c'est-à-dire la consécration, n'est pas accompli. On lit en latin « non conficitur sacramentum ». Par contre, si les paroles dites sont dites par un prêtre qui serait en état de péché mortel, ou bien qui divaguerait, parce qu'il aurait la tête ailleurs, c'est le sens de divaguer. Les instructions disent « propter evagationem mentis », c'est-à-dire à cause de sa divagation. Hein. Alors, pourvu que les bonnes paroles soient dites, le sacrement tout de même est accompli. On lit « conficitur sacramentum ». Il est donc vrai que... Alors ça me fait assez rire ces instructions, parce que le texte ici ajoute « dans ce cas-là, le prêtre qui serait dans un état de péché mortel ou bien qui divaguerait », on nous dit « le prêtre pêche très gravement ». Voici ce qu'on lit. « Sed sacerdos gravissime peccat ». Ben, c'est bien le moins, me semble-t-il, que l'on puisse dire. Alors, retenez en tout cas que si le rite prescrit est observé, la vérité du sacrement, le « verita sacramenti », n'est pas compromise par l'indignité de l'officiant. Ce formalisme n'a pas de limite. En effet, outre le péché, en latin peccatum, toujours possible du prêtre, il faut tenir compte aussi du scandale, en latin scandalum, toujours possible lui aussi. Ainsi, par exemple, si on a un trou de mémoire quand on dit la messe, il faut observer l'assistance à la dérobée pour voir si quelqu'un s'en est aperçu. Et en toute occasion, en effet, lit-on, il importe que tout se fasse en évitant autant que faire se peut le scandale ou l'étonnement des fidèles. En latin, omnia fiant vitando, quantum fieri potest, autant que faire se peut, ça me fait rire ce quantum fieri potest, fidelium scandalum vel admirationem. Alors j'aime bien ce autant que faire se peut, il est tout chargé d'un humour bien involontaire. Autrement dit, pas vu, pas pris. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Alors on pourrait bien sûr dire que la validité du sacrement est suffisamment garantie par la bonne foi de celui qui le reçoit, ce qui pourrait compenser les défaillances de celui qui l'administre. Mais enfin, maintenant, en y réfléchissant, voyez Redouane, je pense qu'il ne faut pas trop accabler l'Église. Ce formalisme et cette hypocrisie dont elle fait preuve sont le lot de toutes les institutions humaines. Quel médecin, quel juge, quel professeur, etc. peut-il admettre, par exemple, est-ce qualité, c'est-à-dire en tant que médecin, en tant que juge, en tant que professeur, qu'il s'est trompé, hein? Ainsi, on a tout intérêt de distinguer, en chaque rôle que jouent les gens, la fonction et la personne. Le respect peut aller à la fonction, sans forcément se porter sur la personne. Simplement, si le jeu social procède comme cela, on peut l'accepter, éventuellement continuer de le jouer. Mais au fond de soi, il importe de ne pas en être dupe. L'intelligence, c'est la destruction de la comédie. Alors, pour terminer cette série d'émissions de cette année, nous allons écouter une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « Le Mécréant » et qui donne en conclusion quelque chose d'une grande sagesse. Cette chanson défend l'orthopraxie. Il suffit de faire ce qu'on doit faire, de bien se comporter. Le reste, les pensées, les dogmes, l'orthodoxie n'a pas une grande importance. Je vous lis très rapidement le début. « Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant de ne pas croire en Dieu ? Je voudrais avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. » Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire, et bientôt vous croirez. Effectivement, Pascal dit, prenez de l'eau bénite, cela vous fera croire. Alors après, il y a tout un récit amusant que les auditeurs apprécieront. Mais à la fin, je lis simplement les quatre derniers vers. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'Éternel existe, en fin de compte, il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Bon, il suffit de bien se comporter dans la vie, c'est sa orthopraxie, hein, faire ce que l'on doit faire. C'est aussi mon avis, et j'espère que l'auditeur le partagera au terme de cette série annuelle d'émissions. Alors, je souhaite de bonnes vacances à tous.
Merci Michel, de bonnes vacances aussi. On se donne rendez-vous donc en septembre pour une reprise dans la deuxième quinzaine de septembre pour une nouvelle année avec donc toujours à la fois découverte et puis théologie buissonnière, hein, voir les à côté de ce que l'institution nous propose. Merci à vous tous de votre fidélité, bonnes vacances pour ceux qui partent, bon séjour là où vous êtes pour ceux qui restent et à septembre. Bonne écoute.
Au revoir.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Je voudrais avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à dépiter les rotuleux à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster, dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondistes, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et tonsuré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi, criant à l'imposteur, au traître, au papelard, elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les peines ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit que faites-vous malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression, on me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus, il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'Éternel existe, en fin de compte il voit, je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.